Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, nouvelle semaine historique dans Matière à penser sur un thème nouveau, écrire la guerre. Et pour commencer à en parler, j'ai l'immense privilège, je pèse mes mots, de recevoir l'écrivain Pierre Guyotat. Bonsoir Pierre Guyotat.
Bonsoir Patrick Boucheron.
En 1967, Michel Foucault saluait ainsi votre entrée fracassante en littérature. « Tombeau pour 500 000 soldats » était, disait-il, un livre fondamental pour notre époque parce que on y ressentait, je cite, « l'histoire, immobile comme la pluie, indéfiniment itérative de l'Occident au XXe siècle ». Votre œuvre, qui est intensément subversive, provoque l'admiration et l'effroi. Mais de quoi s'agit-il? S'agit-il de, justement, cette guerre incessante, immobile comme la pluie, qui vous mouille les os? 50 ans plus tard, vous publiez Idiotie, un livre d'apprentissage qui vous laisse, en 1962, prêt à en découdre, ce sont presque les derniers mots, avec la langue. Est-ce que c'est la guerre qui vous a fait poète, Pierre Guyotat?
Oh non, je ne crois pas. Je pense que c'est une très vieille chose. Chez moi, je pense, comme tout le reste, comme la sexualité, par exemple, qui est un des fondements de ce que je fais.
Et qui est très présent dans Idiotie,
évidemment. Oui, c'est une sexualité très ancienne, si je peux dire. Très ancienne, pas comme pour tout le monde. Mais non, je pense que ce que j'ai vécu en Algérie, au fond, n'a fait que, et surtout le retour, n'ont fait que, au fond, que préciser, que... Donc intensifier, donner un cadre, donner un cadre aussi, encadrer quelque chose qui était déjà très présent, de toute façon très fort, très fort.
Encadrer, intensifier, c'est de ça dont il s'agit aussi dans ce récit, on va dire.
Ça m'a sans doute donné l'audace de le faire, parce qu'il faut oser un livre de ce genre tout de même à cette époque, c'était pas si courant que ça, et même maintenant je pense. Il fallait oser. Je pense, de toute façon, je pense qu'un artiste doit mettre le paquet très tôt.
Ah là, vous avez mis le paquet.
Ah oui, le plus tôt possible. Il faut pas attendre. Il faut le faire tout de suite avec les moyens qu'on a, bien entendu.
Mais ensuite, évidemment, quand on fait subir un tel choc à la langue française, et quand c'est immédiatement reconnu, quand ça scandalise, et ça effraie et ça enthousiasme, comment on fait après? Comment on continue après Tombeau pour 500 000 soldats, après Eden, là on est en 1970, c'est une histoire que vous avez déjà racontée dans les différents récits autobiographiques qui depuis 2000 paraissent, et donc dont Idiotie est un des derniers livres. Comment vous avez fait pour supporter tout ça? C'est-à-dire cette guerre, au fond, à la langue que vous meniez à l'intérieur même de la prose, qui faisait un tel effet sur des si grands esprits, Michel Léris, Michel Foucault. Comment on se sort
pour moi
de
a
ça
été, Le problème
si
pour moi a été très tôt d'assumer tout ça, finalement. C'est une chose dont j'ai assez peu parlé, mais c'est pour ça que le mot écrivain m'a toujours... gêné.
Vous préférez auteur?
Oui, auteur ou artiste, je sais pas. Parce que j'avais l'impression de faire plus que de la littérature. Bon, faire de la littérature, c'est déjà pas mal. Même par les temps qui courent, d'une façon. Faire vraiment de la littérature, c'est, oui, c'est quelque chose d'assez rare, malgré tout. Mais moi, je pensais plus, vraiment. Je pensais vraiment faire de l'art, si vous voulez. Et aussi, j'ai eu très tôt une sorte de dichotomie en moi entre le personnage auteur, en quelque sorte, et le personnage, si je puis dire, qui accomplissait une espèce d'œuvre un peu sacrée, si vous voulez. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis, c'est vraiment très profond. Je savais, sans le savoir vraiment, que c'était une œuvre qui m'aurait scandalisé si je ne l'avais pas écrite, évidemment. Je pense que s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre, elle m'aurait scandalisé, je pense. où elle m'aurait scandalisé, elle m'aurait exaspéré très vite. Si vous voulez. Bon, il se trouve que c'est moi qui l'ai faite. Et donc, il y a eu en quelque sorte un... C'est pour ça que j'ai fait de la politique, je me suis engagé tôt, tout de même, d'une façon publique. Mais j'avais toujours un divorce entre cette apparition publique en tant qu'auteur, si vous voulez, et le personnage subversif intérieur, au fond, qui se fichait de toutes ces choses-là, en quelque sorte, si vous voulez.
Et qui est d'une très grande solitude, puisque, effectivement, il dit aussi qu'il vous raconte de 1958 à 1962, est, oui, pour prendre votre, oui, vocabulaire sacré, au fond, oui, l'accès à la santé d'un jeune homme. C'est comme ça que vous l'écrivez, mais à, oui, un moment donné, précisément dans l'expérience de la guerre, oui, vous dites plutôt le collectif que la solitude. Oui. Ça, c'est un engagement. C'est quelque chose qui vous porte, Pierre Guyotat, à ce moment-là, dans la dureté de la guerre. Donc on est entre 1960 et 1962, oui, en Algérie. Vous êtes emprisonné pour atteinte au moral, oui, de l'armée. Et vous voulez rendre compte de l'humaine condition.
Oui, si vous voulez, comment vous dire. D'abord, j'ai été un acteur, au fond, assez marginal de la guerre, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai toujours été collectif, de toute façon. J'étais en pension très tôt, à partir de 9 ans, donc la collectivité, je connais. Je suis resté assez collectiviste aussi, de toute façon, enfin, politiquement parlant, si vous voulez. Enfin, tout en considérant que c'est une utopie, c'est une magnifique utopie, qu'il est peut-être dangereux de vouloir réaliser dans un courant historique donné, dans un pays ou même dans un continent donné, si vous voulez. Donc le collectif, pour moi, est absolument indispensable, si vous voulez. C'est pas... Je pense toujours collectif. Je ne pense jamais personnel.
Vous écrivez dans Idiotie, Pierre Guyotat, « Je ne peux pas laisser quelqu'un en dehors du monde. Oui. C'est impossible. Je veux que tout le monde soit réuni dans le même espace de miséricorde. »
Oui.
Comment vous alliez ces deux vocabulaires, ce vocabulaire collectif communiste, disons, oui, vous l'avez été, et ce vocabulaire de la sainteté qui est d'emblée dans votre œuvre.
Oui. Aussi, c'est parce que j'ai un esprit très logique aussi. Je considère que même les plus grands criminels, si vous voulez, ont été enfants. Donc ils ont été innocents, autant qu'un enfant peut l'être, si vous voulez, t'es innocent. Donc c'est cette innocence que je n'oublie pas. Après, il y a les circonstances de la vie. La guerre, oui, la guerre de 14-18 pour beaucoup, etc. Donc je considère que c'est, comment dire, tout individu est repêchable, si vous voulez. Alors c'est peut-être chrétien, en tout cas c'est logique, si vous voulez.
C'est logique.
Pour moi, donc, c'est absolument logique.
Et Idiotie, le titre même de votre livre, oui, Pierre Guyotat, a un sens logique, grec. C'est l'être singulier, celui qui n'est pas divisible, celui qui, oui, ne peut pas être deux à la même place, c'est bien ça?
Tout à fait. Tout à
Est-ce
fait.
Que c'est aussi un peu sartrien? Parce que j'ai lu votre dossier
de
presse.
Je ne sais pas.
Jamais personne ne parle de l'idiot, oui, de la famille. C'est étrange.
Hein. Oui, je connais assez peu l'homme de Sartre. Je n'ai jamais été très...
Très proche de Sartre.
J'ai jamais été très... Non, j'aimais bien en tant qu'homme,
oui, bien sûr.
Oui, en tant qu'homme, en tant que personnage, bien entendu. Il était très... Mais pas tant... Enfin, il était très, très bien avec moi, en tout cas. Il m'a défendu souvent, etc. Mais l'œuvre, je dois dire, je n'ai pas été du tout un lecteur de cette œuvre-là en général.
La première fois que le terme même d'idiotie apparaît dans, oui, votre livre, Pierre Guyotat, je crois que c'est page 148, vous êtes donc à l'armée, vous, oui, êtes en Algérie, on vous, oui, amène un paquet, dans ce paquet il y a un Jésus, c'est un saucisson, il y a un chandail, vous vous dites la guerre va durer, oui, et il y a un Faulkner.
Un Faulkner, oui.
Et là, vous commencez à réfléchir à ce que c'est, au fond, que cette guerre qui les contient toutes, ce sera cela aussi, Tombeau pour 500 000 soldats.
Oui, oui.
On dit que c'est un livre sur la guerre d'Algérie, mais c'est un livre sur toutes les guerres.
Toutes les guerres, parce qu'on a oublié aussi dans ce livre aussi toute la part de Deuxième Guerre mondiale. Cette grande fiction est dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale.
Si on vous dit que vous êtes un écrivain épique, vous l'acceptez ou pas?
Tout à fait, tout à fait.
Donc c'est une épopée de toutes les guerres.
C'est un terme qui me paraît très démesuré pour moi, parce que je me sens pas du tout épique. Je pense que je n'ai pas une vie épique du tout, si vous voulez. Enfin, bon, peut-être que j'ai été mêlé à des événements épiques, oui. Et que ce que j'ai fait, cette carrière peut paraître épique, si vous voulez. Mais moi, pas du tout. Quand on parle de force ou d'épopée, je suis extrêmement... Enfin, je rentre sous la terre.
Mais ce moment-là, qui est le moment où, voilà, vous dites, c'est mon idiotie, je vais y revenir, c'est le moment où, au fond, vous comprenez peut-être que cette guerre les contient toutes et que écrire la guerre, ça sera aussi écrire l'histoire des guerres dans leur désespérante... Oui. Répétitivité, immobile comme la pluie.
Immobile comme la pluie, tout
à fait. Et que, d'une certaine manière, la langue française,
oui.
On va en parler de ça, Pierre Guyotat, parce que vous avez un rapport très particulier à l'histoire.
Oui.
C'est de cela dont j'aimerais
que
l'on parle. La langue n'en sortira pas indemne.
Parce que aussi, j'ai entendu, pour la première fois de ma vie, donc, entre 20 et 22 ans, la langue française, au fond, dévoyé par les ordres, par l'ordre militaire, par le langage militaire, par le langage du commandement militaire.
Et vous écrivez, sensation de mon idiotie ici à me ressentir inférieur à qui porte galon et dévoie dans les ordres criés notre langue, qu'avec son territoire porteur, je commence alors de rejeter. Quelle autorité autre que divine pourrait alors me faire courber la nuque? Pas même celle de l'histoire de France, qui, si, pour une part d'entre eux, ils déshonorent et font déshonorer. Donc là, tout est au fond rassemblé dans un point rageur, tous ces thèmes dont on doit parler.
Oui.
Donc c'est cette langue criée, qui crie des ordres iniques, qui, au fond, va vous... amener à en inventer une autre ou à détruire
à
l'intérieur même de cette
langue,
mais la détruire magnifiquement, c'est-à-dire en fait la scander.
Oui, encore faut-il bien la connaître.
Et vous la connaissiez bien à l'époque ?
Oh oui, déjà, oui. Vous savez, j'ai eu une éducation quand même, une éducation religieuse, enfin disons chez les pères. J'ai d'abord été dans un petit pensionnat qui était tenu par des prêtres du diocèse. C'était pas des pères proprement, c'était des curés. C'était du curé, au fond, qui n'était pas du curé de village. Et donc, qui savait beaucoup de choses. Qui avait un esprit extrêmement... C'était des paysans, pour certains. Mais qui était extrêmement savant. Il savait beaucoup de choses. Et c'est extraordinaire, du reste, l'enseignement dire religieux.
Et donc, c'est pour cela, Pierre Guyotat, que votre langue sort de cette épreuve rompue. Mais toujours fluide. C'est-à-dire avec... une scansion qu'on va voir à l'œuvre magnifiquement dans Eden, c'est ce que vous appelez écrire en langue.
Oui.
Et pourtant, à un moment, à partir des années 2000, Formation, tous ces livres autobiographiques, on va dire, vous décidez d'écrire en langue normative. Qu'est-ce que vous appelez la langue normative?
Ça, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai... que je n'ai pas organisé. Il y a une sorte d'alternance, si vous voulez. En même temps, quelques temps après que j'ai publié Coma et Formation, etc., arrière-fond, où j'écrivais aussi Joyeux Animaux de la Misère.
Oui.
Qui est un texte en langue,
en langue.
Donc, comme deux gros tomes en langue, voilà. Et ça continue maintenant, de toute façon. Parce que, de toute façon, l'objet est très différent. Donc, d'un côté, je raconte, j'essaie d'approfondir ce que j'ai vécu, disons, de reconstituer. Et de l'autre, bon, je constitue un monde qui n'est pas moi.
Mais
un monde fait de figure, oui. Donc,
quand même, il y a là une expérience de la guerre, ou plus exactement de l'injustice de la guerre, qui est fondatrice dans le numéro que la revue Critique vous a consacré. Vous donnez très généreusement un texte inédit qui s'appelle La Prison.
La Prison,
Qui est, au fond, le texte, on peut dire que c'est l'avant-texte de Tombeau pour 500 000 soldats.
Oui.
Et qui est, au fond, le texte que vous allez écrire lorsque cesse Idiotie, je me trompe, c'est-à-dire précisément en 1962.
Voilà, oui.
Et déjà, il y a une rage de l'expression qui va effectivement disloquer la langue, c'est bien ça?
Oui. Il y a aussi le fait que toutes mes figures, tous mes personnages, comme on aurait dit au 19e siècle, et comme on continue à dire maintenant, moi je dis mes figures, toutes mes figures sont des figures qui ne sont pas très intégrées dans la société, sont pas des figures majeures de la société.
Ah oui, on va en parler. Si voilà, donc il y a la prostituée.
Voilà, donc ce sont d'une certaine façon des figures idiotes tout de même, idiotes.
Ce que cela vous inspire, c'est pas de jugement, une unité de conditions humaines.
Oui.
Et un effroi aussi face au déchaînement de la violence, à ce que peut un corps lorsqu'il est jeté dans la guerre, c'est-à-dire étranglé, c'est-à-dire égorgé, là effectivement jusqu'à la nausée.
Oui.
Votre prose va fouiller ça, touiller ça. Dans un livre d'entretien que vous avez accordé à Donatien Gros, « Humain par hasard », il y a aussi de la colère contre tous ceux qui parlent légèrement de la guerre. À un moment, vous dites, mais comment, par exemple, un intellectuel, Pierre Guyotat, peut prôner une guerre? Ils ne savent pas ce que c'est qu'une guerre. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une arme blanche. Ils ne savent pas qu'une sentinelle se fait égorger.
Égorger, bien sûr.
Et là, j'ai l'impression que votre indignation, je peux dire ça comme ça, ou votre colère contre les intellectuels de salon, on va dire, est intacte.
Intacte, tout à fait.
Et ça, c'est l'expérience de la guerre d'Algérie entre 60 et 62 qui a appelé, au fond, toute l'histoire de toutes les guerres.
Oui, parce que de toute façon, dans la période d'instruction, on nous apprenait ça. On nous apprenait le close combat, qui était donc le combat de corps à corps. Si mes souvenirs sont bons, je ne pense pas me tromper. Je crois, je pense qu'on apprenait ça. Hein. En tout cas, c'était fait, en tout cas, c'était réalisé. Sur le terrain. Donc ça, c'est une réalité qui est oubliée, si vous voulez.
Et vous dites aujourd'hui, lorsqu'on parle de frappes chirurgicales, de drones, on raconte des histoires,
c'est
toujours un corps à corps.
Voilà, bien sûr.
Et donc cette expérience, au fond, combattante, brève, intense, c'est ce qui, d'une certaine manière, élargit votre expérience politique, ce qui l'installe dans la langue, Pierre Guyotat, et au fond, vous n'en êtes jamais revenu.
Je vous dire une chose, je vais revenir sur la chose précédente, j'ai même entendu un intellectuel de taille à l'époque, très sympathique par ailleurs, de dire au moment des bombardements de Bagdad, je crois, bon, bombardons et après on verra ce qu'on peut faire.
Vous avez écrit une tribune à ce moment-là. Vous avez écrit une tribune à ce moment-là dans Le Monde.
Oui, j'ai écrit une tribune, tout à fait. Un peu sur beaucoup de choses.
Oui. Dont cette chose-là,
effectivement.
Qui n'est pas pourtant votre mode ordinaire, je dirais, d'expression.
Non, enfin, j'ai eu l'occasion de le faire, on me l'a demandé, je l'ai fait.
Peut-être que pour parler de cet ordre, à la fois très doux et très brutal, qui est cet ordre dans lequel vous installez votre prose, on pourrait écouter un peu de musique. Vous nous avez amené de la musique, Pierre Guyotat.
Oui.
On l'écoute, on en parle après.
Tout à fait.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Pierre Guyotat, qu'avons-nous entendu, Pierre Guyotat ?
On dit donc le psaume 137, donc traduit par Marot, traduction française, et en musique de Gaudimel, Claude Gaudimel, qui est un musicien qu'on écoutait encore à l'époque, enfin qu'on chantait même dans une école catholique, oui, alors qu'il était protestant, et qu'il était une victime de la Saint-Barthélemy à Lyon.
Il a été fait, oui.
Son corps a été jeté dans le Rhône. Il a écrit quelques morceaux de musique, dont celui-là qui est magnifique, sur ce psaume extraordinaire, bien entendu, avec une traduction de Marot. Donc là, on a vraiment tout, d'un coup. Donc le protestantisme, qui a tenu une très grande place dans mon enfance, mais je suis d'une famille catholique, absolument catholique, parce que je suis né dans une région, le Haut-Vivarais, qui avait connu donc les guerres de religion, et on en parlait encore beaucoup, c'est quand on était enfant. Moi, j'étais chez les frères des écoles chrétiennes, mais on en parlait beaucoup, et certains héros protestants étaient nos héros aussi, comme Jean Cavalier, par exemple, ou les Camisards, par exemple. Oui, c'était un peu plus bas que chez nous, mais enfin, on avait quand même des saints, on avait aussi des saints très importants. Saint Régis, qui avait tenté d'évangéliser nos montagnes, disons, dans les années, des grandes religions. Donc on était vraiment très proche de la question religieuse, voilà.
Avec une conscience historique, on va en parler.
Donc évidemment, la conscience historique très forte.
Très forte.
Aussi parce que je suis né en 1940. J'ai donc 4 ans donc à la libération de Paris. J'ai vu passer moi l'armée de Lattre, oui, dans notre village. Dans les Américains, je ne crois pas, mais donc nous avons été très impliqués dans notre famille dans cette guerre, donc par la résistance, la France libre, etc. Et la déportation.
Donc ça c'est le versant Marot, la Renaissance,
voilà.
L'histoire de la langue française que vous avez enseignée d'ailleurs au début des années 2000,
plus
vous
ou moins,
en avez tiré
oui.
un magnifique livre. Et du côté de la musique sacrée, là encore, ça vous accompagne depuis longtemps.
Je me demande même si nous n'avons pas chanté dans cette petite école, dans ce petit pensionnat religieux qui s'appelait Notre-Dame de Joubert, et qui est un pensionnat extrêmement austère mais très très doux par ailleurs aussi. Et on apprenait des poèmes par cœur, donc des Villon, des Vigny, des Hugo, etc. Oui. Et des Ronsard, bien entendu. Ronsard et d'autres aussi. Non, Corneille, bien entendu. D'autres aussi, enfin, des poètes baroques, par exemple. Des poètes baroques qui après ont été un petit peu ostracisés, si vous voulez. Alors c'est une poésie très intéressante, très belle, très très belle. Mais voilà, j'ai toujours eu un grand attachement pour la poésie de la Renaissance, disons.
Mais vous êtes quand même
la musique.
Un paroissien un peu subversif, Pierre Guyotat, parce que vous écrivez dans « Toujours tombeau pour 500 000 soldats
oui. »«
Dieu qui agonise depuis 3 siècles meurt ». C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que Dieu est mort, c'est que vous le faites mourir et il meurt au moment de la plus grande solitude de l'homme.
Oui.
Heureusement, écrivez-vous, car c'est dans cette solitude que l'art est possible. Donc comment concilier cette guerre, là encore, entre deux conceptions du monde.
Mais c'est curieux parce que c'est ces phrases que j'ai écrites quand j'étais extrêmement jeune, d'une façon peut-être un petit peu inconsciente, peut-être, je ne sais pas. Au fond, je pourrais tout à fait les revendiquer aujourd'hui.
C'est ça.
C'est ça
que je voudrais vous faire entendre, Pierre Guyotat. C'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de dire,
je pense que vraiment,
j'étais jeune.
Non, je pense que Dieu était le compagnon de l'homme, d'une certaine façon. Dieu, disons la Trinité, pour parler de, pour ce qui nous concerne, nous, occidentaux, voilà. Et que nous avons perdu ces 3 compagnons, en quelque sorte.
Et que votre spiritualité accompagne cette lente agonie.
C'est une question d'accompagnement, si vous voulez.
D'accompagnement.
Oui, parce que vous savez, quand nous étions enfants, nous le considérons comme enfants de Dieu, si vous voulez. Donc, d'une certaine façon, frère du Christ, c'est très compliqué, si vous voulez. Fils de la Vierge Marie, nous-mêmes. Et en même temps, frère du Christ, fils de Dieu le Père, etc. Enfant de Dieu, c'était vraiment quelque chose de très important, si vous voulez.
J'ai à ce moment la sensation que tout ce que j'écris, c'est de la cendre, et qu'inclinant la page, cette cendre glisse avec son sens, cette supplication que j'enfouis sous le gravier.
Oui.
C'est dans Coma. Pierre Guyotat, et ça dit aussi votre poétique, c'est-à-dire cet accompagnement de ce qui est en train de mourir en nous.
Oui.
C'est ce qu'on a entendu aussi, d'une certaine manière, avec avec la musique. Alors comment tout cela peut se combiner avec votre imaginaire historique, qui me semble, parce que ça m'étonne d'une certaine manière quand je vous entends en parler, comment dire, tout à fait fermement structuré, je dirais. L'histoire pour vous, c'est comme une généalogie, c'est comme un lignage, c'est comme des grands personnages, c'est une histoire de France bien sagement rangée. Je me trompe ?
Oh, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, parce que
Vous pensez que je me trompe pas ou vous ne pensez pas?
Je pense que non. Je pense qu'il y a, il y a un reste en moi de cet enseignement, au fond, très encadré, très chronologique. Mais en fait, je lis beaucoup trop d'histoires pour être...
Oui, vous lisez l'histoire d'aujourd'hui. Alors, vous lisez Michelet. Ouais. Hein, parce qu'il y a quelque chose de michelétien, effectivement, dans cette...
Oui, j'ai lu Michelet.
Oui. Vous avez quand même une passion, me semble-t-il, aussi pour les grandes figures roides de l'histoire, toujours dans Coma. L'histoire, je la vois alors contenue, grande figure, traité, célébration, communion populaire, bataille dans le ciel bleu, le firmament, les grands morts, les grandes pensées, rangées là-haut, le ciel bruit de ses actes. Et la nuit, les étoiles sont les signaux de chacun, chacune, chaque. Le temps est là-haut. Le temps, nous sommes en bas.
Non, mais ça, c'était enfant. Non, c'était alors.
Mais
je la vois alors.
On se défait de ce rêve d'enfant.
Bien sûr qu'on se défait.
Vous vous en êtes complètement défait?
Non, pas complètement, parce que je garde tout. Je préfère tout garder, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Non, mais je lis tout le temps, disons, j'y réfléchis tout le temps. J'ai pris un taxi tout à l'heure, par exemple, et j'ai trouvé que l'homme qui conduisait le taxi avait la tête de César, par exemple, si vous voulez. C'est immédiat, oui. Si vous voulez, je ne peux pas avoir une figure sans immédiatement la rapporter à une figure historique connue ou pas.
Et pourquoi vous lisez des historiens? Pourquoi vous ne vous contentez pas de lire des sources ou des auteurs du passé? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'écriture de l'histoire aujourd'hui, Pierre Guillotin?
J'ai livres d'histoire anciennes aussi.
Anciennes, beaucoup.
Donc, j'ai beaucoup lu Fabius Joseph, par exemple. Je lis aussi nos chroniqueurs.
Ah oui, donc c'est plutôt effectivement
ce
que j'appellerais moi des sources.
Oui, les sources, tout à fait. Je lis les sources et aussi je lis les interprétations des sources, disons.
Mais est-ce que
le
débat historiographique, par exemple, sur la guerre d'Algérie, est-ce que ça vous intéresse?
Ah oui, ça m'intéresse.
De lire
ça me lasse un peu et ça m'exaspère un peu, si vous voulez. Je trouve qu'il n'y a pas tellement, il y a assez peu de textes profonds sur cet événement, je trouve, si vous voulez. Bon, il y a des historiens qui sont, je trouve, assez médiocres.
Comment vous vivez justement les derniers développements de l'histoire de la mémoire par rapport à la guerre d'Algérie, la torture?
Mais je pense aussi que quand on veut faire œuvre de, non pas de repentir, mais enfin disons œuvre de reconnaissance, il faut expliquer aux gens ce qu'on fait, si vous voulez. L'affaire Audin, c'est très bien d'avoir reconnu la responsabilité. Bon, c'était une chose faite déjà depuis longtemps. Pas beaucoup de spécialistes. Et aussi, parce qu'il y a une place Maurice Audin déjà depuis 2-3 ans à Paris, à Maubert. Vous voyez, c'est pas une nouveauté. Mais c'était très important que le président de la République aille chez la veuve de Maurice Audin pour lui parler. Encore fallait-il expliquer un petit peu. Mais c'est très compliqué d'expliquer. Vous vous rendez compte? Expliquer à une France, à la France d'aujourd'hui, au fond, le combat de Maurice Audin. C'est très complexe. Communiste, tout ça. Le communisme, qu'est-ce que c'est pour les gens maintenant, le communisme?
Et c'était aussi un combat pour la France. C'est ça que Pierre Vidal-Naquet a montré.
Oui.
Et c'est peut-être de cela dont on pourrait aussi parler, Pierre Guyotat, parce que d'une certaine manière, ce qui peut paraître étrange, évidemment, dans un moment de mémoire que vous dites compliqué à faire partager, c'est précisément la toute fin de votre livre, de ce livre qui nous rassemble ce soir, Idiotie, où vous évoquez une fois encore, les cadavres déchiquetés des soldats français allongés dans les gorges, sur les plateaux, sur les pavés, sur les trottoirs de l'Algérie, avec eux, auprès d'eux maintenant, et à 7 heures encore, tous les égorgés, tous les mutilés du nez, des lèvres, des oreilles, tous les énucléés, tous les démembrés, tous les désentraillés, et ça continue. Et tous ceux qui sont, écrivez-vous, victimes à retardement du crime originel de la conquête.
Oui.
Là, vous n'avez pas dévié.
Ah, j'ai
parce
pas
que
dévié.
Vous arrivez,
non, je n'ai pas dévié.
Vous arrivez en Algérie et vous considérez effectivement que le combat pour l'indépendance de l'Algérie est légitime. Vous n'avez pas dévié et ça ne vous empêche pas de célébrer, par miséricorde, dites-vous, ben, les morts des deux côtés.
C'est même plus que par miséricorde, parce que s'agissant par exemple des soldats français, par exemple, je trouve qu'on les a oubliés, on les a beaucoup oubliés. Donc mes camarades en quelque sorte.
Et le tombeau était pour eux d'abord.
D'une certaine façon, oui, oui.
Et tout cela au nom, je le répète, de l'histoire, de l'idée que vous vous faites l'histoire de France. Alors, un peu quand même, non ?
Moins maintenant.
Moins maintenant ?
Beaucoup moins maintenant. Non, non. Non, c'est beaucoup plus général.
C'est-à-dire, c'est une idée... Vous n'aimez pas le mot « humaniste ». À chaque fois que vous le pouvez, vous dites « je ne suis pas humaniste ».
Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas
en
du
quoi
tout.
Vous n'êtes pas humaniste ?
Parce que j'ai...
J'essaye de comprendre quelle est cette universalité que vous prônez.
Je ne peux pas me considérer comme humaniste quand j'écris ce que j'écris, oui, dans Progéniture ou dans Joyeux animaux de la misère, où je campe, comme on dit, donc des figures qui sont absolument irresponsables.
Vous êtes dans, oui, vous écrivez dans, effectivement, dans l'immonde et vous dites au fond l'animal et l'avenir de l'homme.
Voilà. Donc je ne peux pas me considérer comme humaniste, si vous voulez.
Mais en même temps, c'est bien au nom de valeurs qui sont partagées, qui sont communes, qui sont universelles, que vous agissez et que vous écrivez.
Il y a aussi une chose, c'est que si je crée ce monde-là, ce monde de figures, qui n'est pas celui des livres en langue normative, bien entendu, c'est qu'aussi, l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire une répétition sans fin, on peut s'en lasser, si vous voulez. On peut vouloir créer un autre monde, si vous voulez. Donc ce monde que j'ai créé est une espèce de monde, au fond, préhistorique, enfin, pré je ne sais quoi d'autre. Dans le futur, je ne sais pas.
Oui, donc on revient encore à cette idée, c'est-à-dire... L'histoire immobile comme la pluie, elle nous mouille les os, on n'en sort pas, on en est toujours au même point, et ce point-là, vous en dites l'atrocité.
Non, je ne pense pas qu'on en soit au même point, tout de même. Je n'ai plus la même foi dans le progrès qu'autrefois, bien entendu, mais je crois toujours que tout de même l'homme s'est amélioré. Il y a des choses qu'on ne fait plus, ou si on les fait, on est puni, oui, on est déshonoré.
Je reviens, oui, déshonoré, c'est bien de ça dont il s'agissait aussi dans les extraits que je lisais.
Oui. C'est une notion très importante, l'honneur.
Très important pour vous.
L'honneur, c'est très important.
Voilà, c'est-à-dire les ordres criés, hurlés, ils déshonoraient Pierre Guillotin.
C'est une vieille notion que j'aimerais bien qu'il soit à nouveau
restitué au fond dans notre comme figure. J'ai
restitué
plusieurs fois que vous l'honneur, parlez.
C'est quelque chose d'extrêmement vaste et profond. Ça touche tout le monde. Ça touche les petits comme les grands.
Donc vous faites un drôle de paroissien, un étrange auteur subversif, parce que, évidemment, il faut quand même rappeler, vos livres ont été interdits de vente, interdits aux mineurs, interdits d'exposition, il a fallu des grands noms ont pétitionné pour vous.
Un livre, en tout cas, un livre.
Eden. Vous étiez quand même... Solaire s'écrivait, on n'a rien écrit d'aussi violent depuis Sade. Donc,
tout à fait,
Et à vous entendre, il y a de la douceur, il y a de la reconnaissance, il y a de la, vous dites, miséricorde. Et
puis, tout ça peut parfaitement cohabiter.
Bien sûr, j'en suis bien conscient,
en même,
mais je suis heureux
tout à fait,
que ça puisse
temps,
être dit.
Oui.
Et c'est ça l'histoire, au fond, cette profondeur. Cette manière de la coprésence du présent et du passé, l'idée que le chauffeur de taxi est votre frère humain et qu'en même temps, peut-être il vient de loin, de très loin, et que vous pouvez le reconnaître.
Oui.
C'est ça l'histoire, c'est retrouver des figures.
Tout à fait.
Et l'histoire de France, parce que j'ai l'impression quand même que ça vous intéressent particulièrement, ce qui est très bien.
Forcément. Oui.
Dans après tout, pourquoi pas?
Enfin,
vous vous intéressez à plein de choses.
Oui, oui, oui.
Mais dans Humain par hasard, notamment, le livre d'entretien que vous accordez à Donatien Gros, vous y revenez. Toutes les grandes figures sont convoquées avec avec bienveillance, je dirais, et respect.
Oui.
Et il y a cette phrase formidable aussi, formidable et étrange, que vous écrivez dans Formation. La France, c'est d'abord le mot France, une lumière, un lien. Ceux qui n'ont rien dans ce monde, ni bien, ni passé archivé, ni considération publique, ont ce bien-là, comme commun aux obscurs, comme aux illustres.
Oui.
C'est un mot, la France ?
Ah, mais je le pense toujours, je le pense toujours. Ça, c'est une pensée que j'avais, donc, à l'époque, que je raconte dans Formation.
Oui, dans Formation.
Si vous voulez, hein. Mais je le pense toujours. C'est une idée qu'il faut avoir toujours à l'esprit, sur le plan politique, je pense, si vous voulez.
Et c'est un mot qui est donné au monde, donné au monde.
Oui, mais je pense que c'est un bien que tout le monde a, et surtout les petits, je pense. Qu'on soit obligé en plus de dire maintenant les petits et les grands, c'est dommage tout de même, après tant de siècles, si vous voulez. Non, je pense que c'est un bien commun et... Il faut faire très attention à cette appropriation, parce qu'on appelle le peuple, de cette notion-là.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion-là de peuple ?
Parce que si on l'oublie, eh bien on va monter le populisme, si vous voulez, qui remplace la France que nous aimons par une France que nous détesterions.
Ben, je crois que nous allons consacrer une semaine prochaine à cette question-là, en matière à penser. Qu'est-ce que agir au nom du peuple ? Donc vous parlez au fond de cette histoire lente, longue, parfois immobile, mais toujours entraînante d'un peuple et de sa langue. J'ai lu aussi cette très belle phrase toujours dans Coma, qui raconte au fond une descente aux enfers une remontée des ténèbres.
Oui.
Et lorsque vous remontez, eh bien, vous expliquez que vous ne remontez pas seul, vous ne prenez pas congé seul de ces moments de ténèbres. Je vous cite, « Je remonte dans le passé des peuples au fur et à mesure que je travaille dehors jusqu'à l'extrême limite des premiers froids. » Alors là, on est très loin, on est sans doute dans la préhistoire. Et ça ramène un imaginaire, là, pour le coup, michelétien.
Oui, mais vous savez, je suis plus sensible à la préhistoire qu'à l'histoire proprement dite.
Ah, parlez-nous de la préhistoire,
d'une certaine
Pierre
Guillotin. Je n'y connais pas très grand-chose, mais enfin, c'est une pensée que j'ai tous les jours, pratiquement. Pour presque tout.
Pour la naissance de l'art, pour l'histoire
la naissance des gestes même. Des gestes, des méthodes pour faire cuire, pour faire etc. Pour être avec les autres, pour marcher, pour ne pas marcher, pour dormir, etc., pour se nourrir, pour parler, pour essayer de parler, pour faire de la musique, commencer à faire de la musique, du rythme, pour graver sur la pierre, etc., si vous voulez. C'est ça fondamentalement qui me tourmente, qui me tourmente tous les jours.
Et on en revient peut-être à Idiotie, le livre qui nous rassemble.
Mais c'est pas pour rien.
Oui, c'est pour rien. À ce moment-là, vous êtes prisonnier, donc vous restez 3 mois dans un cachot. Et c'est à ce moment-là, dans le livre, que vous dites, je le répète, plutôt le collectif que la solitude.
Oui. Ah, oui.
Et ce collectif, c'est toute la collection des humains sur la Terre, humains et non-humains d'ailleurs.
Oui.
Et c'est pas simplement, effectivement,
humains
et non-humains. C'est pas seulement le rassemblement des vivants, mais c'est le long peuple des morts.
Il y a ça aussi. C'est que vous savez, quand j'étais enfant, j'avais toutes les raisons de m'intéresser à l'histoire, d'être sensible à l'histoire. Donc par ma famille, par le lieu où j'étais, par l'enseignement que j'avais. Je songeais que tout de même en primaire, chez les Frères des écoles chrétiennes, nous apprenions l'émancipation des communes en France.
Des communes médiévales.
Des communes médiévales. Ça, alors. Extraordinaire. Je me souviens très bien d'un dessin, et c'était titré Les communes, peut-être la naissance des communes.
Après, ah oui, c'est comme Augustin Thierry, c'était les Augustin origines du tiers état.
Avant, quelques pages avant, il y avait Charlemagne se désespère de l'invasion des Normands, par exemple, etc.
Comme une suite de tableaux.
Voilà, une suite de tableaux.
Une suite de tableaux. Et d'ailleurs, il y avait des communes. C'est comme cela aussi que vous organisez votre prose, puisque je parlais de récits autobiographiques, mais j'ai bien tort, parce que ce sont, là encore, comme la pluie immobile dont parlait Foucault, des tableaux.
Ce sont des tableaux.
Idiotie, c'est, au fond, nous apprend à cette attention qui fait effraction dans le réel et qui nous permet de prendre soin du monde. C'est de cela.
Mais ce sont des textes, tous ces textes autobiographiques sont des textes dans lesquels je disparais, moi.
Vous disparaissez
au profit de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes, au fond des paysans, des ouvriers, et après des militaires.
Et
des
donc,
soldats.
Vous que l'on a accusé méchamment de vouloir tout saccager, Pierre Guyotat, ultimement, vous voulez prendre soin du monde la langue.
Tout à fait.
Et de la langue.
Mais ce n'est pas contradictoire, si vous voulez. Pas du tout. Je pense qu'au XVIIe siècle, j'aurais été très bien compris, je pense. Parce que c'est une époque où on a une vision très profonde de l'homme, je pense, de l'humain, je pense. Descartes et autres.
Et aujourd'hui, vous vous sentez
des grands tragédiens tout de même, Molière, une très grande connaissance du cœur humain, en fond de ses contradictions. Molière, c'est extraordinaire pour ça, ses contradictions, de son étroitesse et de sa grandeur en même temps. Pascal, bien entendu, le maître des maîtres en quelque sorte sur ce plan-là. Oui,
je vois. On pourrait continuer longtemps.
Tout à fait, oui.
Merci Pierre Guyotat.
Je vous en prie, c'est un honneur pour moi.
Non, c'est pour moi,
on
vraiment.
On va parler.
Bonne soirée. Matière à penser, Pierre Guyotat, Valentin Azan-Zielinski, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascal Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous recevrons l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac pour nous parler de la manière dont l'art fait parfois la guerre à la guerre. Bonne soirée.